Seigneur, oui, viens nous aider par ta parole, cette parole biblique que nous ouvrons à nouveau à cheminer avec toi, à pédaler avec courage, avec force, avec joie. Et merci parce que tu es venu nous rejoindre sur nos chemins. Amen.
Amen.
Je vous invite, c'est pas très étonnant vu la période, à méditer aujourd'hui un texte qui n'est pas sans lien avec Noël. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, les versets 18 à 25. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Amen.
Amen.
Nous aurons cet après-midi le match de la finale. Nous aurons cet après-midi rendez-vous sous l'étoile à Montmoreau pour la fête de Noël. La compagnie de l'étoile nous fera revivre, car bien sûr vous viendrez à Montmoreau cet après-midi, nous fera revivre avec humour, avec ferveur, la visite des mages auprès de l'enfant Jésus. Le récit de ce matin que je viens de vous lire, l'annonce à Joseph de la naissance de Jésus, est situé tout au début de l'évangile de Matthieu, juste avant l'arrivée des mages. On n'a pas toujours l'habitude de lire les récits à la suite. Le récit que je vous ai lu, c'est juste avant l'arrivée des mages à Jérusalem. Vous l'avez entendu, ce passage se termine avec le récit de Noël selon Matthieu, qui nous en apprend peu sur l'événement de la naissance de Jésus. Matthieu est très chiche pour Noël. Marie enfanta un fils auquel Joseph donna le nom de Jésus. Un bref faire-part de naissance. Par contre, à travers les étonnements, les hésitations et l'obéissance de Joseph, Matthieu nous apprend beaucoup sur l'identité de l'enfant. Il est fils de l'homme, il est fils de David et il est fils de Dieu. D'abord, fils de l'homme. Les bergers et les mages à Bethléem ont découvert un bébé, semblable à des millions d'autres bébés. Rien ne laissait soupçonner à son aspect qu'il était le sauveur du monde. Luc nous dit, ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Voyez, Jésus n'était pas un super bébé. Et tant mieux, car tel était le projet de Dieu, se faire homme, tout simplement, avec tout ce que cela comporte de beauté et de faiblesse, de joie et de souffrance, pour nous rejoindre là où nous sommes, tels que nous sommes, même dans nos plus grandes fragilités. Jésus est donc né d'une femme. Matthieu nous dit que Marie, sa mère, se trouva enceinte. Et les problèmes commencent. Ça m'est pas longtemps arrivé, les problèmes, hein, les crevaisons. Avant même la naissance de l'enfant. La jeune fille, accordée en mariage à Joseph, fiancée en quelque sorte, devait rester chez ses parents. Tant qu'elle n'était pas mariée, tant qu'elle n'était pas officiellement accueillie sous le toit de son époux, elle ne devait avoir aucune relation conjugale. Dans la Bible, l'homme et la femme attendent la plénitude de leur mariage pour avoir un enfant. Or, problème, Marie se trouva enceinte. Et pire encore, Marie n'est pas enceinte de Joseph. Le juste Joseph, dont nous parle Matthieu, est bien placé pour le savoir. Lui, il attendait patiemment la vie commune pour s'unir à son épouse. Or, au début de notre récit, Joseph ne sait rien de l'origine divine de l'enfant. Joseph ne peut que présumer. Que présumer quoi ? La paternité d'un autre homme. Alors, sa décision de répudier secrètement Marie montre qu'il gardait une haute idée de la sainteté du mariage requise par la loi de Dieu. Les 10 commandements disaient clairement « Tu ne commettras pas d'adultère ». Que Marie soit enceinte pouvait être considéré comme un adultère, et la loi juive était à ce sujet très sévère. Je vous lis le Deutéronome au chapitre 22, versets 23 à 24. Si une jeune fille est fiancée à un homme et qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de cette ville, vous les lapiderez et ils mourront. Enceinte avant son mariage, du fait d'une relation présumée, avec un autre homme, vous le voyez, Marie se trouve dans une situation peu claire et dangereuse, de même, bien sûr, que l'enfant qu'elle porte en elle. On comprend l'inquiétude de Joseph. Mais Joseph aime Marie. Il peut encore sauver son épouse en la répudiant secrètement. Parce qu'il y a peut-être une autre réponse. Marie pourrait avoir été contrainte et serait donc innocente. La Bible prévoyait cette situation, toujours Deutéronome 22. Dans ce cas, tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'a pas commis de péché qui mérite la mort. Joseph ne veut surtout pas donner Marie en pâture à une enquête officielle, c'est bien comment ça se passe. Pour l'instant, tel est son projet pour sauver Marie et l'enfant. Matthieu écrit, voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Le mot que nous traduisons par origine, c'est le mot Genèse. Tiens, c'est intéressant. Voici quelle fut la Genèse de Jésus-Christ. Oui, un monde nouveau est en train de naître, dans lequel Dieu se fait homme, dans lequel Dieu se remet entre les mains des humains, avec tous les risques que cela comporte. Déjà, des hommes auraient pu tuer l'enfant à naître. Mais Dieu compte aussi sur les justes pour accomplir son dessein. Il compte sur ceux qui sont fidèles à ses commandements, qui se plaisent dans ses chemins et qui préfèrent la miséricorde au sacrifice et aux rigueurs des lois. avant même l'information importante donnée par l'ange du Seigneur, le juste Joseph avait décidé de sauver l'enfant et sa mère. Frères et sœurs, en cette période de Noël, rappelons-nous que le Seigneur compte encore sur notre fidélité, sur notre obéissance, sur notre témoignage pour le porter au monde. Jésus est aussi fils de David. Matthieu fait précéder notre récit de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous voyez, c'est ça le début de Matthieu. Vous avez la généalogie, c'est intéressant. Hein, ensuite, vous avez le récit qu'on a lu aujourd'hui, et puis ensuite, vous avez la visite des mages. Cette généalogie, on saute parfois. Vous auriez aimé que je fasse une prédication juste là-dessus ? Pourquoi pas, hein ? C'est très intéressant, en fait. Mais bon, retenons-en pour ce matin que la venue de Jésus est ancrée dans une longue histoire. Une longue histoire remplie de promesses. Et l'Ancien Testament nous relate cette histoire. Et là encore, une histoire d'amour compliquée. Avec des histoires pas toujours très claires, d'ailleurs. Une histoire compliquée des relations de l'Éternel avec le peuple qu'il a choisi pour porter au monde sa révélation et son salut. En naissant homme et en naissant juif, Jésus s'inscrit concrètement dans cette histoire. Il assume cette histoire et il va la conduire à son accomplissement. Joseph, Matthieu nous dit bien qu'il est fils de David, en prenant chez lui son épouse, en donnant un nom à l'enfant, devient son père légal, on dirait aujourd'hui son père adoptif. Cela ne posait aucun problème au judaïsme de l'époque. Matthieu a donc pu écrire, alors je ne vous lis pas tout, hein, je résume, on est au milieu, là où c'est en gras sur la gauche, Jessé engendra le roi David, David engendra Salomon, de la femme du riz, on lit l'histoire un peu sordide, là. Salomon engendra Roboam, etc., 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 etc. Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Légalement, Jésus est fils de Joseph, il est donc descendant du roi David. Il est fils de David, c'est pourquoi il fallait qu'il naisse à Bethléem, dans la ville de David. Plus loin, Matthieu reparlera de cette filiation davidique de Jésus. Il décrira notamment l'entrée de Jésus adulte à Jérusalem. Les foules l'acclameront en criant « Hosanna au fils de David !»« Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !» Et rappeler cela pour Matthieu, c'est une manière de confirmer que dès sa naissance, dès sa filiation, Jésus est bien le Christ. Il est le Christ, c'est-à-dire le Messie attendu d'Israël, celui qui a reçu l'onction royale et divine pour sauver son peuple. Près de 1000 ans auparavant, Dieu avait en effet, par la bouche du prophète Nathan, fais cette promesse à David. J'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi-même. Cela ne concernait pas seulement Salomon, même si cela concernait aussi Salomon. Mais cela ne concernait pas seulement Salomon, puisqu'il ajoutait « J'établirai à jamais son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Le prophète Ésaïe avait rappelé cette promesse. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Jessé, c'est le père de David, la souche. Et voilà, un rameau, une descendance sortira de cette souche. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur en plénitude. Les Juifs, au début de notre ère, attendaient la venue de ce descendant de David. Il serait le Messie, un nouveau David, un roi d'Israël qui devait les délivrer de l'envahisseur romain. Il devait aussi apporter la paix et le salut de Dieu. En précisant l'origine de Jésus-Christ, Matthieu annonce que Jésus est ce Messie attendu. Mais sa royauté est bien différente de celle de David. Jésus ne naît pas dans le palais d'un roi. Sa royauté n'est pas de ce monde, il le dit lui-même. Le prophète Ésaïe avait annoncé qu'il serait prince de la paix. Il refuse donc le pouvoir et la violence. Il entre à Jérusalem, humble et monté sur un âne. Il lave les pieds de ses disciples. Ésaïe avait pressenti son aspect. Une extraordinaire prophétie dans les chapitres 50 et 53 d'Ésaïe. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage face aux outrages et aux crachats. Il est méprisé, laissé de côté par les hommes. » Il est méprisé, laissé de côté par les hommes, frères et sœurs. C'est encore le cas aujourd'hui. Ne nous étonnons pas de voir la fête de Noël remplacée par le paganisme ou l'impiété les plus effrénées. C'est ainsi que la nuit de Noël ressemble le plus à celle de la naissance de Jésus, finalement. Jésus, laissé de côté par les hommes. Mais nous savons que le nouveau David règne pourtant par son esprit dans le cœur de ceux qui l'accueillent par la foi. Ceux-là forment un petit troupeau. Ils étaient quelques bergers autour de Marie et Joseph, capables de reconnaître en l'enfant de Bethléem le Sauveur, le Christ Seigneur. Et Jésus est mort presque seul, renié, rejeté et abandonné de tous, sur une croix d'infamie. Or, frères et sœurs, c'est justement pour cela qu'il est venu. Non pas pour appeler les justes, mais les pécheurs. Il est venu attester que Dieu ne nous abandonne pas quand nous l'abandonnons, que Dieu veut nous sauver quand nous nous perdons. Ce fils de David méprisé restera pour toujours l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est fils de Dieu. Marie se trouva enceinte, Matthieu précise quand même, par le fait de l'Esprit Saint. Pour connaître que pour Joseph, ce n'était pas évident d'imaginer cette solution. Elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Beaucoup se moquent de cette proclamation de l'Évangile. Même des chrétiens remettent en question ce qu'on appelle la conception virginale de Jésus. Une vierge peut-elle mettre au monde un enfant? Bon, remarquez aujourd'hui, Luc, dans son évangile, proclame la même vérité. L'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu avait toute liberté de venir à nous en la personne de son Fils et de nous manifester la plénitude de sa divinité en donnant à Marie la joie de devenir la mère du Seigneur par la puissance de l'Esprit Saint. Concrètement, rien n'est à imaginer. C'est pour nous une bonne nouvelle à accueillir. À Noël, en cet enfant qui est le fils de Marie, c'est Dieu qui vient parmi nous. Exprimer aussi résolument que le font les évangiles, aussi concrètement, j'ai envie de dire, que Jésus est le fils de Dieu, c'est confesser que Jésus est bien celui qu'annonçait le prophète Ésaïe. Encore lui, il en dit des choses, Ésaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Emmanuel, eh bien, c'est le plus ancien nom de Jésus, un nom porteur d'une immense espérance. Dans nos misères, dans nos nuits, Dieu ne nous abandonne pas. Pour les anciens juifs, le nom avait une grande importance. Il exprimait souvent la destinée ou le rôle de celui qui le portait. C'était une annonce de ce qu'il était ou de ce qu'il allait être. Ce nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, dit la même chose finalement que les paroles de Jean au début de son évangile. L'enfant est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. J'aime ce verset. Petite anecdote, allez tant pis, je prends un peu de temps, hein, Guillaume. Quand j'étais pasteur au Pont de Martel, petit village du canton de Neuchâtel en Suisse, les gens dans le temple élevaient un grand sapin qui allait jusqu'en haut du temple, décoré de bougies partout, avec un fil imbibé d'essence de térébenthine qui devait allumer toutes les bougies dans la nuit de Noël. C'est magnifique. Et le privilège d'allumer ce fil, c'est incombé au pasteur. J'étais très fier. Le soir de Noël, d'allumer ce fil. La première fois, ça sentait le roussi, je pense que ma barbe a pris un peu quelque chose. J'allumais ce fil depuis le lutrin, et puis tout le sapin, progressivement, était illuminé par les bougies. Et en faisant cela, parce que je voulais que ce geste eh bien, soit bien sûr une proclamation de l'Évangile, et pas seulement un joli truc de Noël, je proclamais cette parole, le Christ Jésus, est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Et ça prenait une dimension dans ce sapin qui éclairait la nuit, c'était magnifique. Pour vous rassurer, les pompiers étaient présents. Voilà, Dieu est venu dans nos ténèbres. C'est cela que ça signifiait. Dieu est venu dans nos ténèbres pour nous conduire dans sa lumière. Alors voilà de quoi rassurer et réjouir le bon Joseph. « Ne crains pas, dit l'ange, de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. » Vous voyez, dans notre texte, l'enfant reçoit deux prénoms. Emmanuel, Dieu avec nous, et Jésus, ce qui signifie « le Seigneur sauve ». Ces prénoms résument notre foi chrétienne. Dieu est avec nous et le Seigneur sauve en Jésus. Matthieu prend soin d'en expliquer le sens à ses lecteurs, qui sont de langue grecque et qui ne comprenaient pas l'hébreu. L'enfant de Marie s'appellera Jésus, et Matthieu fait préciser par l'ange, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En Jésus, le Seigneur nous sauve. Mais de quoi ? Le Messie Jésus n'a pas chassé les Romains par les armes ou par le feu du ciel. Au contraire, il sauvera son peuple de ses péchés, nous est-il dit. Il n'utilisera pas la violence, au contraire, il en détruira la racine. Si Dieu est avec nous, c'est pour restaurer pleinement et définitivement notre relation avec lui. Tel est notre salut, vivre avec Dieu pour toujours. Or, c'est exactement le contraire du péché qui nous coupe de notre relation avec le Seigneur et avec les autres. Il est possible de s'approprier ce salut par la foi en Jésus-Christ. En Jésus, dans la repentance et la confiance, nous trouvons le pardon dont nous avons besoin, le pardon de nos fautes. Paul écrit « Dieu a tout réconcilié par Jésus et pour Jésus, sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. » Et par sa vie et par ses paroles, Jésus a ouvert pour nous un chemin de renouveau où nous pourrons le suivre, pédaler et vivre avec lui. Comme lui, libéré du péché. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. en nous donnant son esprit, on l'a vu aujourd'hui, l'esprit qui était sa vie, Jésus vient prendre naissance en nous. Il vient vivre en nous. Il vient demeurer en nous. Il nous habite pour rendre notre renouvellement possible, pour nous sanctifier, pour que lui seul, le Messie, règne en nous et non plus le péché. Il est le roi Emmanuel avec nous. Et enfin, par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort. Nous ne sommes plus victimes des conséquences mortelles du péché. Ressuscités avec le Christ, nous vivrons toujours avec lui. Il est toujours avec nous. Hein, Marie-Luce, ce soir, il sera avec toi. Il est Emmanuel pour l'éternité. Amen. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce temps de l'année qui nous rappelle la profondeur de ton amour, de ton abaissement. Tu es venu nous rejoindre en prenant le visage d'un enfant. À Jasmine, Liv, ce matin, nous rappelle ce visage qui était le tien, un visage d'innocence et de fragilité, au cœur de notre histoire, au cœur de nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'accueillir. Toi, l'Emmanuel, tu nous fais cette promesse d'être toujours avec nous. Donne-nous de te garder précieusement au cœur de notre vie et de ne pas te rejeter. Seigneur, tu portes le nom en ton Fils de Jésus. Celui qui apporte le salut, nous te bénissons parce que tu nous pardonnes nos péchés et tu nous permets de vivre avec toi aujourd'hui et pour l'éternité. Donne-nous de ne pas faiblir dans la foi et de rester profondément attachés, de nous laisser éclairer jour après jour par ta lumière en Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.